Si le monde était bien fait, quand une famille vient nous voir à la paroisse pour préparer un enterrement, non seulement nous arrêterions tout, nous continuerions à tout arrêter séance tenante pour les accueillir, pour dire la compassion de l'Église, la prière de tous, pour pleurer avec ceux qui pleurent, mais nous ne leur demanderions pas d'argent. Nous ne sommes pas une entreprise de pompes funèbres. Pas plus que nous n'en demanderions pour un mariage ou pour un baptême. On ne parlerait plus dans l'Église de cette contribution financière spécifique que les plus anciens connaissent sous le nom de casuelle. Et le mot veut-tu dire qui vient du latin casualis, qui veut dire fortuit, c'est-à-dire qui peut arriver ou non suivant, pas seulement les circonstances, mais suivant le hasard. Comme si les grandes étapes de l'existence, la naissance, le baptême, la naissance à la vie de grâce, l'amour, le grand amour de la vie consacré par le mariage, et le passage par la mort dans la maison du Père, comme si ces grandes étapes relevaient du hasard. Si le monde était bien fait, les frais directs supplémentaires effectivement occasionnés par ces célébrations, seraient pris en charge par l'Église tout entière et de toute façon couverts par l'Assemblée présente. C'est le principe de la quête. Parfois, je demande aux fiancés qui se marient en province, quel est le casuel, c'est-à-dire quelle est l'offrande qui est demandée, exigée par la paroisse d'accueil. Parfois, je suis un peu choqué parce que chacun sait que les quêtes de mariage sont parmi les plus généreuses. Alors, j'en ai discuté avec mes confrères, je connais leurs arguments, ils ne voient pas pourquoi ils n'auraient pas leur part du gâteau. Sachant le budget considérable d'un mariage. Et ils ne font pas la différence entre les festivités qui suivent, où les invités sont reçus, traités, invités par les fiancés, les mariés et les parents, et la célébration religieuse. Et la célébration religieuse où nous sommes rassemblés, par Dieu, par la gratuité de l'amour de Dieu. L'amour gratuit de Dieu. Et il nous rassemble pour participer à son œuvre, pour annoncer ce don gratuit de son amour. Parfois, il y a des personnes qui me disent qu'elles ont l'impression de ne pas assez participer à la messe. Alors je leur dis, donnez davantage à la quête. Quand Jésus dit au lépreux qu'il vient de purifier, d'aller se montrer au prêtre, parce que le prêtre, c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, il est chargé de constater, d'attester sa guérison, et il lui donne l'autorisation de réintégrer la communauté. Quand il lui dit d'aller se montrer au prêtre et de donner pour sa purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une offrande qui le dispense ensuite de respecter la loi. Mon rêve, si le monde était bien fait, serait de pouvoir répondre aux familles qui me demandent « Combien je vous dois, docteur ?» ou « Pardon, mon père ?» De pouvoir répondre quand elles me disent « Combien ?» de pouvoir répondre exactement comme un médecin, mais prescrire, plutôt répondre « Combien de temps ?» Combien de temps elles doivent prier, par exemple, dans le cas d'un enterrement pour un défunt? Vous irez à la messe tous les dimanches pendant un an pour prier pour votre proche. Vous confesserez pour Pâques et vous communierez si votre état de vie le permet. Puisque le carême commence, vous ferez ce carême en communiant avec toute l'Église, en faisant un jour de jeûne, au début, au mercredi des cendres, et à la fin, pour le vendredi saint, pour vous unir à l'Église et pour penser à ceux qui ont faim toute l'année. Et puis, avant la fin de l'année fiscale, vous verserez un pourcentage de vos revenus aux deniers. C'est quand même pas très compliqué. Voilà ce qu'on appelle les préceptes de base de l'Église. Et ça n'enlève rien à l'amour de Dieu, dont la caractéristique fondamentale est la gratuité. Comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, si nous voulons imiter le Christ, suivre le Christ, imiter le Christ, Nous n'avons rien d'autre à faire que de nous adapter à tout le monde, vous voyez l'expression, sans chercher son intérêt personnel. Sans chercher son intérêt personnel. Lorsque le lépreux a été purifié, Jésus l'a renvoyé, le texte dit avec fermeté, de façon très ferme, très claire, en lui disant de ne rien dire à personne, et l'homme a fait rigoureusement le contraire, en proclamant ça à tout le monde. Dans mon enfance, il y avait une expression, on disait qu'il aurait fait ça pour se rendre intéressant, pour faire l'intéressant. Mais le résultat, c'est que Jésus s'est trouvé entravé dans sa mission, il ne pouvait plus rentrer ouvertement dans les villes parce que le miracle, il ne suscite pas la foi. Le miracle, il confirme la foi. Le miracle, tout ce qu'il suscite, c'est la curiosité, l'envie, parce qu'il y a de meilleur. En tout cas, pas ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend de nous, c'est la forme la plus haute de la gratitude qui s'appelle la fidélité. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. On peut traduire en langage moderne, j'irai le dimanche à la messe. Et je prierai tous les jours. Et le psaume, le psalmiste, c'est le psaume 115, ajoute par deux fois, je tiendrai mes promesses au Seigneur. Ma conviction la plus profonde, ce dont je suis certain, c'est que nous tous ici présents à la messe, nous sommes là parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. Je dirais même que pour chacun de nous, à un moment au moins précis de notre vie, l'amour de Dieu s'est manifesté. Le Seigneur est venu à notre secours. Nous savons qu'il est notre sauveur. Nous n'avons pas besoin de le raconter les uns aux autres, de le raconter dans le détail. C'est le secret de notre relation à Dieu, c'est notre intimité. Et le Seigneur ne veut pas que nous en témoignions autrement que par notre fidélité. Ne dis rien à personne, réintègre ta communauté. Ne sois pas ingrat, sois croyant et pratiquant. Deviens un homme, une femme de prière. C'est ça qui sera pour les gens le meilleur témoignage. La place de la prière dans ta vie. Mes amis, vous le savez bien, quand vous dites à quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui est dans la difficulté, « Je vais prier pour toi, je prie pour vous », la personne sait si c'est vrai. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un homme qui se déclare ouvertement athée, issu de l'enseignement catholique. Il y a une seule chose qu'il ait gardée au fond du cœur. Le jour où son aumônier lui a dit, alors qu'il était encore très jeune, il lui dit « Je vais prier pour toi ». Voilà ce qu'il garde au fond de son cœur. Il a beau se déclarer athée, il a ça dans son cœur. Et notre mission à nous, c'est de faire alors ce que nous avons dit, de nous unir comme nous le faisons ce matin, de nous unir à la prière de toute l'Église. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons unis à lui pour nous porter les uns les autres. Jésus n'a pas guéri ce lépreux pour qu'il se répande. Voyez comme ce verbe est expressif, qu'il se répande, fût-ce en louange. D'ailleurs, ça n'en était pas. Jésus lui avait interdit. Les hommes pécheurs aiment les plaisirs interdits. Pas le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas qu'on se serve de lui, qu'on invoque à tort son saint nom. Jésus a guéri cet homme. Pas pour qu'il se répande, au contraire, pour qu'il se retrouve en lui-même. Pour qu'il se retrouve en lui-même et qu'il réintègre l'assemblée des saints. Si le monde était bien fait, cet homme guéri, nous le laisserions tranquille. Ou plutôt, nous ferions comme lui, c'est ce que nous faisons ce matin, venir supplier Jésus-Christ. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Le monde est bien fait. Jésus-Christ.